On est très heureux de t'accueillir. Et du coup, tu peux nous parler de l'histoire de cette pièce, de comment elle a démarré, et puis où, et après on va voir comment elle a atterri ici.
Oui, bah merci Lorraine, merci Simon. Alors là, cette pièce a commencé en 2005. Je vivais dans un atelier logement à Amsterdam, dans un étage élevé d'un immeuble d'une architecture post-Rietveld, donc architecture de béton et d'acier, donc très différent du reste de la ville, et un peu plus élevé, un étage un peu plus élevé. Et j'étais dans une réflexion sur, j'y suis toujours d'ailleurs, sur la question du travail, qu'est-ce que c'est que le travail d'un artiste. Et j'avais dans l'idée d'essayer de faire travailler mon atelier à ma place, et donc de le vider, et de faire parler une lampe dans cet atelier. L'atelier lui-même étant avec des murs blancs qui serviraient de caisse de réverbération de ce langage. Et assez rapidement, j'ai donc fait parler une lampe en code morse visuel. Donc on vient d'en parler avec les radioamateurs. Donc on voit ce que c'est maintenant, le morse visuel. Ma première tentative a été de faire parler cette lampe et de lui faire dire une seule phrase qui était un hommage à un artiste néerlandais que j'aime beaucoup qui s'appelle Bastian Ader et qui avait fait une performance une vingtaine ou une trentaine d'années auparavant à Amsterdam dans une galerie et cette performance s'appelait « I am too sad to tell you »« Je suis trop triste pour te le dire » performance dans laquelle il pleurait dans la galerie et c'était sa seule activité. Donc, un geste poétique vraiment très très beau. Et donc j'ai fait cette première pièce qui après s'est autonomisée et je me suis dit non qu'il fallait que je fasse une lecture, un récit en fait, qui partirait de cette fenêtre. C'était une grande baie vitrée sur un canal d'Acostacade. Et il me fallait un récit qui parlerait ou qui raconterait peut-être aussi ce qui se passait en bas. Dans la ville, il y avait un rapport aussi à la ville et à l'espace urbain. Et très vite, le seul récit qui m'est apparu possible de faire lire par cette lampe en morse a été le Quichotte de Cervantes, donc ce grand roman de l'illusion, qui est un roman très important, je pense, dans la construction de l'Occident, de la culture occidentale. D'abord parce qu'il est le principe fondateur de la langue castillane, mais aussi parce qu'il est le premier roman critique et autocritique, critique du genre picaresque, dont il se moque et qu'il reprend et qu'il définit, en fait. Et autocritique, je dirais, parce que il y a deux livres dans le Quichotte. Et dans le deuxième livre, les personnages que rencontre Don Quichotte ont lu le premier livre. Donc c'est assez amusant, parce qu'ils savent la situation du personnage. Voilà pour la première version. Je peux enchaîner, je sais pas, continuer à...
Bah oui, tu peux parler des autres versions qui sont venues plus tard, mais il y avait aussi la question un petit peu de l'adresse, même je sais pas si tu veux en parler de la première version, ouais. Mais qui s'adressait, je crois, à une personne.
Oui, en fait, il y avait... Ça se mélangeait, comme souvent dans la vie d'artiste, la vie privée, la vie la vie de création. C'est que j'avais cette idée qu'il fallait vider l'atelier pour que ce soit lui l'outil du langage et plus moi qui fabrique des outils de langage, d'une certaine manière. Et une personne avec qui je voulais parler et qui ne voulait pas me parler, donc je me disais, je vais lui envoyer un message par la vitre et elle va revenir, quoi, cette personne. Donc c'était une espèce de communication, comme un peu une bouteille à la mer, on lance quelque chose et on espère que quelqu'un va l'attraper. Et ce qui était assez intéressant, enfin ce qui est important pour moi plutôt dans cette utilisation de la langue, de la codification en morse, c'est qu'il y a peu de radioamateurs, il y a peu de gens qui savent la lire ou la décrypter. Et quand on voyait ma fenêtre depuis le canal Normand, on voyait cette lumière rouge, parce que j'ai toujours utilisé une lumière rouge, clignoter, mais c'était pas une fête. On voit très vite que c'est pas une fête, parce que ça n'a pas une cadence de fête. On lit très rapidement que c'est un langage, une codification, code dont on n'a pas nécessairement les moyens de le comprendre. Donc en fait, c'est une adresse qui dit quelque chose, et la personne qui le voit en bas voit que quelque chose est dit, mais qu'elle ne le comprend pas. Et cette incommunicabilité était exactement ce sur quoi, et dans ma vie personnelle et dans ma vie artistique, j'avais envie d'essayer de donner une représentation. Comment faire image de cette incommunicabilité ? C'était ça l'enjeu aussi de ce texte-là, enfin de cette pièce-là. Et évidemment, le personnage même de Don Quixote de la Mancha, qui produit des exploits, enfin qui imagine produire des exploits dans un système illusoire, les produit pour séduire une femme qui s'appelle Dulcinée et qui n'a pas connaissance de son existence. Et donc il y avait un rapport qui était très proche entre ma manière de faire et le personnage, le grand personnage de l'illusion et le grand roman de l'illusion. Cette chose, je l'ai faite chez moi, sans que personne ne me demande rien. Et donc ça fait aussi partie, pour moi, d'un truc assez fondamental dans la création, qui est le principe de nécessité. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire des choses pour des gens, on fait d'abord des choses parce qu'on a la nécessité de les faire. Et ça, je pense que c'est essentiel. Si ce n'est pas nécessaire pour soi, je ne vois pas comment ça peut intéresser quelqu'un d'autre. Et du coup, des gens ont vu cette pièce et elle a été amenée à voyager dans un rapport où... C'est-à-dire que les gens l'ont vue et ont dit « j'aimerais bien la voir à tel endroit » ou « j'aimerais bien la voir à tel endroit ». Et donc à chaque fois, j'ai essayé d'adapter le principe de base de cette pièce lumineuse avec le désir de personnes qui voulaient la voir quelque part. Et comment deux désirs, en fait, se rencontrent et produisent une nouvelle installation. Alors, ça a pu avoir des formes très spectaculaires, comme ça a été le cas à la Boekentoren à Gand. C'était la tour des livres, si on traduit du flamand, qui est en fait la bibliothèque de l'université de Gand. Donc, c'est une très grande tour de Henri van de Velde. Et donc dans toute la tour, il y a des livres. Et au dernier étage, il y avait une salle de réception qui n'était plus tellement utilisée en verre, enfin en toute ouverte sur la ville. Et c'est là que le livre a été lu, donc en haut d'une bibliothèque. Donc une bibliothèque était en train de lire un livre. Et l'autre version très spectaculaire, dirais-je, c'était celle qui a été faite au Grand Palais, dans le dôme du Grand Palais, donc le plus spectaculaire possible, avec le concours des mecs qui éclairent la tour Eiffel. Mais après, il y a des versions qui sont juste une ampoule qui clignote. Et pour moi, c'est exactement la même chose. C'est juste moins spectaculaire. Et en l'occurrence, quand vous m'avez fait la proposition de venir ici, la présence du radiotélescope, en fait, de cette d'une certaine manière, bouteille à la mer, qui est le radioamateur, c'est la manière dont ils se répondent, la manière dont le radiotélescope fait image avec les Algeco qui sont en dessous, c'est que déjà, on est en train d'envoyer un signal quelque part, on ne sait pas qui va le lire. C'était amusant de voir que les radioamateurs qui étaient là, eux, étaient capables de comprendre ce qui se disait. Et donc, ça, c'est une place assez naturelle, en fait, pour cette pièce, que de se retrouver juste derrière nous, avec, en plus, une espèce de... Puisqu'ils ont travaillé là toute la journée, avec leurs outils, enfin, leurs micros, tout leur staff, quoi. Donc, c'est assez naturel.
Et tu nous parlais aussi un peu tout à l'heure, quand on discutait, d'autres codes qui se mêlaient à ta pièce, comme les signaux d'aviation.
Ah, oui, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a installé la pièce à Gand, donc c'est sur la tour la plus élevée de la ville, donc c'était la première fois que je faisais dans ce type d'endroit, et du coup, il a fallu prévenir les aéroports, parce que ce sont des signaux qui peuvent être perturbateurs pour l'aviation. Et puis au Grand Palais, c'était peut-être l'anecdote que je vous ai racontée tout à l'heure, qui est que le dôme du Grand Palais donne directement sur l'Elysée, donc on ne peut pas monter pour installer dans ce dôme sans prévenir l'Elysée, parce que sinon on a une vue sur la présidence, et donc ça peut être dangereux si par exemple on est armé ou je ne sais pas quoi. Et puis il y avait eu ce souci final qui, pour moi, au moment de... parce que c'était une installation qui s'est faite dans un cadre très officiel, diligenté par le ministère de la Culture. Et en haut du Grand Palais, il y a un drapeau français qui est très grand, qu'on voit quand on est sur les Champs-Élysées. On ne se rend pas compte qu'il est très grand, mais il fait 6 mètres par 4. Et il est éclairé par 4 énormes lumières qui font chacune entre 1000 et 1500 watts. Et donc, si on laissait ces lumières allumées sur le drapeau la nuit, ma pièce ne fonctionnait pas. Donc j'ai été dans une confrontation avec l'institution, le président ou le directeur du Grand Palais n'a pas voulu les éteindre, il a fallu monter à l'étage au-dessus. Et finalement, ils ont accepté de les éteindre, ce qui a été très compliqué. Mais ça a fait basculer le drapeau français, qui est devenu du coup un drapeau rouge, puisqu'on ne voyait plus, on distinguait mal le blanc et le bleu sans l'éclairage, et que mon éclairage est rouge. Et donc ça renvoyait à une problématique qui était le moment de la décision du drapeau tricolore et la proposition de Lamartine, qui était d'avoir un drapeau rouge, mais qui a été refusé pour intégrer le bleu de la ville de Paris et le blanc de la royauté. Et je crois que c'est 1830, mais je sais pas où ça se vérifie. Et pour l'État, enfin pour les représentants de l'État, pour les hauts fonctionnaires qui étaient en charge de ça, c'était une question qui était encore d'actualité. Ça, c'était vraiment intéressant pour moi de voir cette symbolique-là, enfin de la constater, alors que... En fait, moi, je n'avais même pas imaginé qu'ils n'allaient pas les éteindre. Il y avait une telle évidence. Voilà, il y a un éclairage, c'est une œuvre lumineuse, on éteint les autres lumières. Quoi.
Alors, peut-être que je suis resté bloqué, même si ça m'intéressait beaucoup, cette histoire du drapeau, mais je reste un petit peu bloqué à cette histoire de me dire que dans l'adresse que tu as, bah, en fin de compte, les personnes qui peuvent lire Don Quichotte sont les contrôleurs aériens. Il y a quelque chose comme ça qui se bouscule. Qui me plaît bien, puis en fin de compte ça pourrait être aussi les radios amateurs qui tombent sur ton code et puis qui lisent Don Quichotte. Il y a quelque chose, ça tombe peut-être pas sur les bonnes personnes, mais au moins ça tombe sur quelqu'un.
Ouais, mais quand j'ai fait le truc à Amsterdam la première fois, en fait j'espérais qu'il y ait un marin espagnol qui habite en face de chez moi, parce qu'en fait le texte aussi est en espagnol, j'ai pris le texte. Ouais.
Pardon, faut être radio-amateur ou contrôleur aérien ou marin, mais surtout espagnol.
Ouais, surtout espagnol.
Tu peux nous parler du boulot sur lequel tu travailles en ce moment?
Ah oui, c'était la question. Alors, je sais pas du tout où j'en suis. Hein. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière, donc c'est pas sûr que ça va exister, mais je travaille sur des formes de boucliers anti-émeute, tels qu'ils sont faits par par les blocs, en fait, par les gens qui se défendent de la police. Et j'avais été très fasciné par des images que j'avais vues en 2010 et puis un peu après successivement d'universités italiennes. Ils étaient en contestation d'une loi de changement de l'université et on était arrivé à un degré de violence assez élevé puisque la police était intervenue dans l'université et du coup les étudiants avaient décidé de fabriquer ces boucliers anti-émeute. Mais au lieu de juste fabriquer des boucliers, sur la paroi visible par les policiers, de mettre chacun le titre d'un livre qui avait de l'importance pour eux. Alors comme ça, j'ai vu des images où il y avait écrit « Tropico del Cancre, Miller » et je trouvais ça fou que quelqu'un se protège avec Henry Miller. Quoi. Et du coup, je suis en train de fabriquer ce type d'objet. C'est très cheap, c'est d'une esthétique black bloc, enfin bloc tout court, quoi. C'est pas fait pour être beau. C'est des objets de défense, mais qu'est-ce que c'est que ces titres de livres? Et donc, du coup, ça fait un peu un lien, effectivement, avec ce rapport que j'ai, que je fais pas exprès, que ça arrive tout le temps, avec les livres et comment faire image, en fait, avec ce qui m'accompagne, ce qui nous accompagne tous un peu ici, qui est la littérature ou les grands livres. Et moi, je ne sais pas écrire, donc je fais des images. Et là, c'est en l'occurrence, c'est comment faire image avec ça. Et donc, une musique, c'est ça.
Ouais, tu vas introduire la musique, mais avant, on va te remercier chaleureusement. Et merci, Jean-Baptiste.
Et inviter tout le monde fortement à venir pendant les 54 jours qui nous séparent de la fin des deux tomes du Don Quichotte.
Ouais.
Donc là, on est encore au tout début. D'ailleurs, il se passe quoi là, les premières pages? Tu te rappelles à peu près
Là, tout de suite. Non, je ne saurais pas dire ce qui se passe en ce moment.
Là, en ce moment même, oui. Mais du coup, il s'apprête à partir pour ses grandes aventures là.
Il vadrouille un peu. Il se demande s'il va partir le tout début. En fait, ça, j'en ai pas parlé, mais Borges, c'est quand même c'est un peu long le Quichotte.
Ouais.
Et je l'ai lu. En fait, je l'ai lu en même temps que je faisais la pièce, qui était le truc assez drôle. Mais Borges invente donc cette fiction que Pierre Ménard aurait écrit deux chapitres et demi à l'identique du Quichotte. Et au fond, Borges disait c'est un super roman, mais il est un peu trop long. Et deux chapitres et demi, ça suffit. Et c'est vrai qu'il y a des répétitions, mais c'est très drôle.
Et donc, venez vraiment voir les Algéco sous la parabole jusqu'à. On est fin mars, ça fait fin. Ça fait quoi, fin mai? Je me rends pas compte, mi-mai. Oh là,
mi-mai, je pense.
Ouais, mi-mai.
Et la nuit, c'est mieux.
Et la nuit, c'est
pas
mieux.
La nuit, c'est pas mieux, mais on voit mieux, disons.
Là, par exemple, là tout de suite, c'est particulièrement efficace. Et on écoute tout de suite. Tu veux la présenter ce qu'on
écoute? Ah bah oui, parce que du coup, on se demandait ce qu'on allait écouter. Et j'ai pensé à Bella Ciao dans une version qui a été diffusée par Harmonia Mundi il y a une douzaine d'années. Et donc c'est une grande chanson révolutionnaire italienne. Et le début de la chanson, c'est le texte original des femmes qui chantaient dans les risotières, je sais pas comment, enfin l'endroit où on cultive le riz. Et après, la suite, c'est le chant partisan de Bella Ciao. Moi, ça me fait toujours pleurer.
On te consolera.
La mattina, appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao alla mattina, appena alzata, il risaia mi tocca andare. Gli insetti e le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, 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 e fra gli insetti e le zanzare, un duro lavoro mi tocca fare. Mamma mia, oh che tormento, oh bella ciao, bella ciao, 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 oh mamma mia, oh che tormento, io ti invoco ogni domani. Io ti invoco ogni doma,
mi sono alzato,
io ti invoco ogni doma,
partigiano portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano portami via, che mi sento di morire, e se muoio da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. E le genti che passeranno, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.